Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Heidi Knurzer pour le livre Berlin et les Juifs, 19e, 21e siècle, paru sous votre direction, ainsi que celle de Laurence Guillon aux éditions de l'Éclat, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors, vous êtes maître de conférences d'allemand à l'École Polytechnique à Paris et membre du CEREG, c'est bien ça, Centre d'études et de recherche sur l'espace germanophone à l'Université Paris 3. Alors, comme le titre de ce livre l'indique, c'est un ouvrage collectif qui revient sur l'histoire de la communauté juive à Berlin, une histoire longue puisque la présence juive remonte à la naissance de Berlin au XIIIe siècle. Ce livre porte principalement sur les 19e, 20e et début du 21e siècle, notre siècle. Pourquoi ce choix ?
Oui, peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais dire que en fait, l'objectif du livre n'était pas vraiment de décrire l'histoire des Juifs de Berlin, mais plutôt de nous interroger sur le lien entre les Juifs et la ville pour savoir s'il était particulièrement fort ou pas. Et puis, il semblerait qu'il l'est. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé le recueil plutôt Berlin et les Juifs, mm-hmm. et pas les Juifs de Berlin. Et en fait, pour répondre donc à votre question, le choix du donc fin 19e, début 20e, 21e siècle, c'est plutôt un choix que nous a un peu imposé l'éditeur. Parce qu'en fait, le livre est le fruit de deux projets. On a d'abord organisé, grâce au dispositif des colloques juniors du CIRA, c'est le Centre d'études interdisciplinaires de recherche sur l'Allemagne, on a organisé une journée d'études sur le même thème. Et ensuite, comme on a constaté lors de cette journée que le thème était vraiment très intéressant, on a prolongé nos recherches sur le même thème dans le cadre d'un projet innovant. Et en fait, on aborde vraiment presque toute la période, c'est-à-dire du 18e jusqu'au 21e siècle. Et c'est donc les éditions de l'Éclat qui ont préféré qu'on se concentre sur le 20e et 21e siècle, fin du 19e et 21e siècle. Voilà.
Il y a un concept qui revient régulièrement dans votre livre, c'est la symbiose judéo-allemande. Mm-hmm. À quoi ça renvoie exactement ?
Oula, c'est une question compliquée. Justement, donc on n'aime pas trop ce terme parce qu'on estime que c'est un terme quelque chose qui n'a jamais existé. Il n'y a pas eu de symbiose judéo-allemande. C'était plutôt un amour à sens unique, en fait. C'était les Juifs qui voulaient s'intégrer dans la société allemande, qui ont créé des choses extraordinaires. Mais la société allemande est quand même toujours restée réticente à l'intégration des Juifs. Sans doute aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque où le terme a été forgé, il n'y avait pas de symbiose judéo-allemande. Donc nous on s'intéresse plutôt à ce lien entre les Juifs et Berlin, et on a plutôt travaillé avec la notion de topophilie de Gaston Bachelard, qui permet d'appréhender cet amour fort pour un lieu, l'attachement fort pour un lieu. Et aussi, on s'est inspiré aussi des travaux d'un groupe de recherche de Potsdam qui s'appelle Makom, lieu en hébreu, et qui a interrogé la notion du lieu dans l'histoire juive, donc qui s'est intéressé à des lieux très concrets comme l'État d'Israël, des institutions juives en Allemagne, les cimetières, le Stettel, la ville, voilà, des choses comme ça.
Juste avant justement de revenir sur cette question du lieu à Berlin, on ne peut pas parler des Juifs et de Berlin sans évoquer évidemment la figure de Mendelssohn. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui. Alors justement, effectivement, Mendelssohn, c'est une figure emblématique de la vie juive à Berlin. Parce que c'est, même si vous l'avez dit, en fait, la vie juive commence à peu près avec la naissance de la ville au XIIIe siècle. Mais c'est en quelque sorte, mais on peut parler d'une véritable existence, une communauté juive qu'à partir de 1671. Et c'est ensuite Mendelssohn qui vient à Berlin en 1743, qui participe vraiment à ce rayonnement presque international du judaïsme allemand, parce qu'il joue donc un rôle extrêmement important dans les milieux littéraires et philosophiques allemands et européens, et parce qu'il initie le mouvement des Lumières juives, la Haskalah, qui œuvre pour un rapprochement entre juifs et chrétiens, et parce qu'il joue aussi un rôle très important dans l'avènement de l'émancipation des juifs en Europe. En France aussi, il a une grande influence sur les penseurs français de l'émancipation. Voilà, je pourrais en dire plus si vous le souhaitez.
Bien sûr.
Je ne sais pas. En fait, Mendelssohn, il a beaucoup inspiré les travaux de Mirabeau, de Malesherbes, de l'abbé Grégoire aussi, qui donc ont joué un rôle très important, comme vous le savez, dans l'émancipation des Juifs en France.
La partie que vous évoquiez au tout début, cette topographie, vous insistez aussi beaucoup dans votre livre sur l'importance de l'architecture juive à Berlin, notamment vous parlez de l'architecte Alexandre Baer, mm-hmm. Qui est l'auteur de nombreuses synagogues, dont oui. celle de la Prinzregentenstraße, qui mm-hmm. a été complètement détruite durant la nuit cristale. Mm-hmm. Quels vont être ces lieux de la vie juive à Berlin?
Alors Alexander Baer, il a effectivement joué un très grand rôle parce qu'il était, en fait, il y avait quelque chose d'assez unique à Berlin, c'est-à-dire la communauté juive de Berlin avait un bureau de construction qui supervisait donc les constructions et l'entretien des institutions liées à la communauté, des synagogues, des écoles, des cimetières, etc. Et Alexander Baer, il en était le directeur à partir de 1910. Et dans cette fonction-là, il a construit donc un tas de monuments. Donc, il a construit l'école pour filles de la Auguststrasse. Donc, c'est une rue qui est pas très loin de Alexanderplatz, dans le fameux quartier des Granges, Scheunenviertel. Il a également construit un hospice dans un autre quartier, Schmargendorf. Il a aussi construit, comme vous l'avez dit, la synagogue de la Prinzregentenstraße. Et voilà, donc je ne sais plus ce que c'était votre question.
L'importance de ces lieux oui. dans Berlin.
Oui, pardon. Oui, et donc Alexander Baer a aussi construit le cimetière militaire à Weissenbeer, et notamment un monument aux morts de la Grande Guerre. Et aujourd'hui, en fait, de toute cette période très, très intense de l'architecture juive à Berlin, il n'existe plus grand-chose. En fait, il existe aujourd'hui encore le cimetière militaire de Weissensee, l'école pour filles de la Auguststrasse et l'hospice.
Le cimetière militaire de Weissensee, c'est le cimetière juif de Weissensee ?
Non,
c'est un autre.
C'est un autre.
D'accord.
Mmh.
Parce que celui-ci, qui est aussi très important, oui. symboliquement aussi, pour la population juive, c'est un des plus vieux cimetières juifs d'Europe, c'est bien ça ?
Tout à fait. Voilà. Et... mais donc voilà, de la période de Baer, en fait, il existe donc ces trois lieux que je viens de citer. Parce que voilà, Baer, comme vous le savez, il est décédé à Theresienstadt. Et beaucoup d'architectes juifs ont dû émigrer pendant l'arrivée des nazis. Et voilà.
Ce que j'aimerais comprendre, c'est ce que vous appelez topophilie. Donc c'est oui. l'amour des juifs pour la ville de Berlin.
Oui. Oui, c'est ça, en fait. Donc, en fait, il y a à la fois, effectivement, un amour assez fort des Juifs pour Berlin. Donc, il y a beaucoup de Juifs qui sont, même après 45, qui ont décidé de revenir à Berlin parce qu'ils avaient une espèce de patriotisme local qui fait qu'ils ne pouvaient pas imaginer de vivre ailleurs. Il y a... depuis Mendelssohn jusqu'à l'arrivée des nazis au pouvoir, il y a eu dans l'histoire juive à Berlin des créations extraordinaires, parce que la ville aussi a permis, donc les juifs ont beaucoup contribué au développement culturel et économique et politique de la ville de Berlin, mais la ville de Berlin a aussi grâce à une certaine tradition de tolérance
et leur a laissé une place
d'ouverture, leur a laissé une place, a vraiment permis à la vie juive de s'épanouir à Berlin. Donc en fait, c'est vraiment il y a une connexion intime entre les deux, Il y a Dominique Bourrel, un grand chercheur, d'ailleurs spécialiste de Mendelssohn, qui dit que l'histoire des Juifs et l'histoire de Berlin est inséparable, en fait. Qui a vraiment cette connexion intime, symbolisée d'ailleurs, c'est une pure coïncidence, mais la première, la ville donc, est fondée en 1244, et la plus vieille pierre tombale qu'on a trouvée au cimetière de Spandau porte la même inscription, en fait. Mm-hmm. Donc en fait, dès le départ, il y a cette connexion, ce lien fort.
Pierre tombale juive.
Voilà, juive, pardon. Oui.
On a peut-être vu aussi cette particularité au moment du nazisme, c'est-à-dire que contrairement à Munich, par exemple, Berlin a toujours été un peu réticente au nazisme, et on sait qu'un certain nombre de Juifs ont pu rester dans Berlin sans forcément être dénoncés, ont pu sortir dans la rue sans avoir leur étoile juive, sans être dénoncés. Ça aussi, c'est une particularité, vous diriez, de Berlin ?
Oui, je pense que ça a joué, notamment dans l'attachement, comme le montre Laurence Guillon dans son article qui s'intéresse aux Juifs de Berlin après 1945. Effectivement, les Berlinois étaient plutôt réfractaires à Hitler. Donc ils n'ont pas voté massivement pour Hitler. Berlin est la ville d'un certain nombre de miracles, comme la révolte des femmes de la Rosenstrasse, c'est très connu, donc qui ont réussi à obtenir la libération de leur mari.
À quel moment, ça ?
C'était en 1943, je crois.
Ouais.
Ils avaient été déportés dans une action qui s'appelle la Fabrique Aktion. C'était en février 1943. Et les femmes ont obtenu leur libération. Donc, c'était à Berlin. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un monument dans la Rosenstrasse. Il y a beaucoup de Juifs aussi qui ont survécu parce qu'ils ont été cachés à Berlin. Voilà, donc la ville... je pense que ça joue aussi dans l'attachement
même après la guerre, oui, bien sûr. Un autre aspect de votre livre, c'est la part belle que vous faites à la littérature juive. Il y a un auteur, écrivain, poétesse qui retient particulièrement l'attention, c'est Gertrude Colmar. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui. Alors, Gertrude Colmar est née à Berlin. Elle est née à Berlin à la fin du 19e siècle et elle est morte en 1943, sans doute à Auschwitz. Et c'est une femme, une auteure un peu particulière, comme vous avez pu le constater en lisant son article, parce que elle a publié un certain nombre d'ouvrages, mais elle vit assez loin des milieux littéraires de Berlin. Et dans son œuvre, elle véhicule plutôt une image négative de la ville qui apparaît comme agressive, violente, perverse, en fait. Donc vraiment l'image de la décadence de la métropole, en fait. Un peu comme les peintres expressionnistes comme Ernst Ludwig Kirchner qui ont aussi décrit cette décadence dans leur tableau. Et donc elle a un rapport, elle vit elle-même en banlieue berlinoise et ses œuvres se passent aussi toujours un peu à la limite entre la ville et la campagne. Et elle se distingue donc beaucoup d'une autre auteure juive, Else Lasker-Schüle, que vous connaissez peut-être, qui aimait beaucoup la vie de bohème de Berlin.
Oui, qui fait partie intégrante complètement de cette vie culturelle.
Voilà, qui est vraiment passionnée par... la vie culturelle, la liberté de Berlin, et alors que Colmar était plutôt une vision assez, je dirais, un peu réactionnaire de la grande ville, de la condition de la femme, même des minorités autres que juives. Elle était... voilà.
De manière plus contemporaine, il y a aussi la figure de Barbara Honigman que vous évoquez longuement dans ce livre, dont l'histoire familiale et le parcours personnel est intimement lié à la violence de l'histoire allemande du XXe siècle.
Barbara Honigman est effectivement très intéressante, surtout en France, parce qu'elle vit en France, elle a émigré
en Alsace
à Strasbourg. Et donc en fait, elle est née dans une famille juive en 1949 à Berlin-Est. Et après, elle a pu se réfugier en Angleterre sa famille a pu se réfugier en Angleterre pendant la dictature nazie. Et ils reviennent en 1947 s'installer en RDA parce que son père était
par conviction.
Par conviction. Son père était communiste Et en fait, ils avaient vraiment envie de construire une Allemagne plus juste, une Allemagne meilleure, comme beaucoup de gens qui revenaient après la guerre. Mais elle ne se reconnaissait pas dans ce projet. Et du coup, elle a décidé de quitter la RDA pour aller vivre à Strasbourg.
Et aussi dans dans cet oubli de leur identité juive.
Voilà.
Parce que ça, c'est quelque chose à laquelle ses parents ont complètement renoncé, ne lui ont pas transmis en
voilà,
tout cas.
Voilà, exactement.
Et c'est quelque chose qu'elle a été chercher elle-même dans les rares lieux, justement, que vous évoquez dans ce livre. La bibliothèque juive, notamment, le cimetière de Weissensee. Elle a vraiment exploré ces endroits de la vie juive de Berlin-Est pour retrouver son identité.
Exactement, en fait. Donc, elle a effectivement, grâce à cet héritage parental, qui était donc, pour simplifier, c'était des gens qui ne s'intéressaient pas trop à la culture juive. Et donc, elle a eu un rapport assez difficile au judaïsme et aussi au socialisme
réel,
voilà. Parce que pour elle, effectivement, le régime est-allemand occultait la culture juive, le passé juif. Et en même temps, il permettait quand même un tout petit peu aussi aux juifs de Berlin-Est de vivre leur culture. Mais c'est compliqué, je crois que c'était très compliqué pour Barbara Honigmann. Et donc Berlin est à la fois pour elle un lieu de la dépossession identitaire, en ce sens que donc le régime, comme je viens de dire, en fait, ils ont pas beaucoup, accordé beaucoup d'importance aux religions en général et aussi à la culture juive en particulier. Mais c'est aussi un lieu d'une réappropriation de la culture juive. Elle le décrit dans ses livres qu'elle a écrits en France, donc je pense que l'exil aussi a permis d'avoir un autre regard sur ce qu'elle a vécu en RDA. Elle a rejoint un groupe de juifs est-allemands en mal de racines et a partagé avec eux le rituel des balades sur le cimetière de Weissensee notamment. Donc elle le décrit dans ses œuvres, elle décrit son état délabré pour aussi à la fois, je pense, un peu critiquer le régime est-allemand qui ne faisait pas très attention. Elle décrit aussi ses visites de la synagogue de la Rieckestrasse qui se trouve dans une cour arrière, donc bien cachée. Pourtant, c'est la plus grande synagogue d'Europe, je crois.
Dera, oui, du coup, qui a échappé à la destruction pendant la nuit cristal.
Exactement. Elle va aussi régulièrement dans une salle culturelle qui se trouve à l'intérieur de la synagogue de la Oranienburger Straße, c'était la deuxième synagogue de Berlin, construite en 1866, et qui n'a pas été détruite pendant la nuit des pogroms en 1938, mais donc la façade n'a pas été détruite, mais qui aujourd'hui n'est plus une synagogue, mais juste un centre communautaire, le Zentrum Judaicum, et puis il y a des salles de la communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est même, il faut que je sois correcte, je crois que c'est le siège de la communauté juive de Berlin aujourd'hui. Ils ont déménagé en 2006, je crois, de Berlin-Ouest à Berlin-Est. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc elle va dans cette salle pour fêter des fêtes juives. Et elle va aussi à la bibliothèque juive que vous avez évoquée dans la Oranienburger Straße également. Et donc du coup, elle fait revivre tous ces endroits dans son œuvre, qui peut se lire effectivement comme une sorte de topographie de la mémoire juive de Berlin-Est. Et c'est notamment l'exil qui lui permet de renouer avec ce passé, de voir aussi la richesse de la vie de Strasbourg, lui permet aussi de voir qu'à Berlin, finalement, il y avait aussi des choses, peut-être pas aussi riches qu'à Strasbourg, mais il y avait quand même des choses qui étaient là, quoi.
C'est une autre période qui s'est ouverte, en tout cas pour tout le monde, mais aussi pour la vie juive à Berlin. C'est la chute du mur. Il y a eu un renouveau. Comment on pourrait décrire la présence juive aujourd'hui à Berlin ?
Oui, alors aujourd'hui, effectivement, comme vous venez de dire, en fait, il y a un véritable renouveau depuis la chute du mur. La vie juive connaît un véritable essor, notamment grâce aux immigrés juifs qui sont arrivés de l'Union soviétique et aussi grâce aux Israéliens qui sont arrivés. Donc les juifs russes sont arrivés plutôt au début des années 90.
Parce que l'Allemagne avait offert un visa, c'est bien ça, hein,
voilà.
C'est ça qui a permis cet afflux massif
c'est ça,
dès 91, je crois.
je crois dès 89, parce que la RDA a ouvert ses frontières aux Juifs russes, aux l'Union soviétique. Et ensuite, la main Renouffé est allée dans ce sens. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup de... un véritable afflux d'immigrants juifs d'Europe de l'Est, hein, ou d'ex-URSS. Et depuis 2000, on assiste aussi à un autre phénomène, c'est une espèce d'arrivée massive d'Israéliens, plutôt de la troisième génération de jeunes Israéliens qui arrivent à Berlin. Et en fait, ces deux phénomènes ont contribué à un renouveau de la vie juive à Berlin, qui se traduit par la fondation d'un tas d'organisations. C'est Sophie Zimmer qui en parle très bien dans ses articles. Donc elle en a fait deux dans le recueil. Elle évoque notamment le Jüdische Kulturverein. En français, ça serait l'Association pour la culture juive, qui a été fondée à Berlin-Est. Et c'est lui qui est à l'origine de cette ouverture des frontières de la RDA pour les Juifs soviétiques. Et cette association est ouverte à tous ceux qui veulent se refamiliariser avec la culture juive. Donc ils organisent des manifestations culturelles, des conférences, des spectacles, des cours de danse folklorique. Après, il y a aussi des associations un peu plus alternatives. Sophie Zimmer, elle parle notamment d'une association qui s'appelle Beth Deborah, et d'une autre qui s'appelle OLH Hidouche. C'est des lieux pour ce que Sophie Zimmer appelle les oubliés du judaïsme, qui ne se sentent pas vraiment représentés par la communauté officielle et qui donc vont dans ces associations. Beth Deborah, c'est un forum pour femmes juives. Et en fait, ils débattent des questions comme l'infertilité, l'idée d'une famille autre que biologique, la question des enfants qui n'ont qu'un père juif. L'autre association, c'est une association qui est proche du Jewish Renewal, donc fondée sur une pratique mystique et méditative. Qui accueille aussi notamment des juifs gays et lesbiens. Toutes ces associations ont pour but de redonner aux juifs la joie d'être juif, de sortir d'un rapport un peu difficile, comme je crois qu'une des femmes que Sophie Zimmer a interviewées dit d'un rapport un peu dépressif au judaïsme.
Peut-être une spécificité du judaïsme allemand.
Pour la deuxième génération, ceux qui ont vécu, qui sont donc d'enfants qui ont vécu
la Shoah,
et qui n'ont jamais vraiment pu avoir une identité claire en fait. Donc de redonner une forme de joie d'être juif, de leur réapprendre les traditions juives et de donner aussi une place aux oubliés du judaïsme qui ne trouvent pas, qui ne sont pas représentés par la communauté officielle. Pour les Israéliens, donc en fait il y a une arrivée en masse des Israéliens à Berlin. Je crois qu'il y a eu à peu près 10 000 Israéliens qui sont venus s'installer à Berlin dans les 10 dernières années. Et en fait, il s'agit essentiellement d'Israéliens de la troisième génération. Et ce que montre très bien Sophie Zimmer dans son article, ils ne cherchent pas, pour eux, il ne s'agit pas vraiment d'un retour aux racines, d'une quête des origines. Mais plutôt, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est plutôt, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils recherchent un peu le divertissement, l'amusement à Berlin. Ils cherchent aussi à sortir du confinement de l'État d'Israël. Ils savourent l'anonymat de Berlin. Donc c'est plus des motivations pragmatiques, pas tellement historiques. Bien qu'il y ait aussi des tentatives de ces jeunes Israéliens d'instaurer un dialogue entre Allemands et Israéliens de la troisième génération, donc qui ont tous un lien particulier à la Shoah, soit parce qu'ils ont eu des parents bourreaux ou des grands-parents bourreaux, ou alors des grands-parents qui sont morts dans les camps. Donc en fait, il y a par exemple, ça c'est très intéressant, un programme de radio en hébreu et en allemand, Kol Berlin, La Voix de Berlin, où c'est un lieu de débat entre Allemands et, Israéliens, où il s'agit essentiellement de comprendre le pourquoi de la Shoah. Et il y a aussi un autre groupe, Abayt, qui veut dire maison en hébreu, qui vise à présenter la culture israélienne aux Allemands. Donc ils organisent des rencontres, des lectures, des soirées musicales et festives. Par exemple, ça c'est bien dans l'esprit de Berlin. Ils ont organisé une fête sur la plage de Tel Aviv à Berlin, avec des spécialités israéliennes. Voilà. Donc il y a effectivement, même si ces Israéliens ne recherchent pas leurs origines allemandes à Berlin, mais
la question est forcément bien sûr présente.
Oui, voilà.
La question de l'histoire.
Voilà, exactement.
Je vous remercie beaucoup, Heidi Knörzer. Je rappelle que votre livre, Berlin et les Juifs, 19e-21e siècle, vient de paraître aux éditions de l'Éclat, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.